7h42 en temps universel, tout de suite le journal des sports sur RFI. Avec vous Baptiste Leduc. En football, la Côte d'Ivoire s'est imposée vendredi contre le Burundi dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.
Les champions d'Afrique en titre ont gagné sur le plus petit des scores, 1-0, un but marqué par Evan Guessant, le Niçois, pour sa 5e apparition avec les éléphants, a marqué son premier but, un but important. Il permet aux siens de rester invaincu dans ces éliminatoires. Le héros du soir, Evan Guessant, au micro de Molamine Sissavané.
À chaque match, j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir aider l'équipe. Si c'est en marquant, c'est avec plaisir. Si c'est en faisant marquer, tant mieux. Si c'est en défendant, en sauvant un but, je le fais avec plaisir. Voilà, quand on porte ce maillot, je pense qu'il faut tout donner. Et j'ai pas de difficulté à jouer avec de tels bons joueurs. Après, c'est sûr que en tant que joueur offensif, j'ai forcément envie d'aider mon équipe. Aujourd'hui, c'est chose faite et je suis très content parce qu'on avait besoin de ces 3 points. Forcément, à ce niveau-là, chaque équipe te pose des problèmes. À nous de les résoudre pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, ce soir, je pense qu'il faut juste savourer la victoire parce qu'elle est très importante. Si on avait perdu, ça aurait été une autre histoire. Mais là, on est premier. On va regarder le positif, je pense.
Au classement, la Côte d'Ivoire reste donc leader du groupe F devant le Gabon. Pour la 6e journée, les hommes d'Emers Faye recevront la Gambie lundi à Abidjan.
Dans le groupe G, en revanche, pas de but entre la Guinée et la Somalie.
Et pourtant, le Sili national a tout tenté, Julien, je vous jure. 30 tirs, 15 cadrés, mais rien à faire. Il y a des jours comme ça ne veut pas rentrer. Ouais. Ce sont 2 points laissés en route par le Sili national dans un groupe G dominé par l'Algérie et le Mozambique. La Guinée se retrouve légèrement distancée, 4 points derrière. Il faudra réagir en Ouganda mardi pour la 6e journée.
La RDC aussi a peiné mais est parvenue à s'imposer pour rester en embuscade dans le groupe B.
Les Léopards ont dominé et battu le Soudan du Sud 1-0. Théo Bongonda a fait craquer le verrou avant la pause au stade des Martyrs de Kinshasa avant de sortir sur blessure en deuxième mi-temps. 3 points cruciaux pour les joueurs de Sébastien Le Sabre qui en compte 10 après 5 journées. Ils reviennent à hauteur du Soudan en tête du groupe B avant le match très important entre le Soudan justement et le Sénégal. 3e rencontre qui va se disputer ce samedi à Benghazi, 19h temps universel.
Autre match du même groupe prévu aujourd'hui, Togo-Mauritanie. Les éperviers n'ont plus le droit à l'erreur, Baptiste.
Avec seulement 3 points pris en 4 journées, le Togo joue ses dernières carte dans ces éliminatoires du Mondial 2026. Il faut obligatoirement une victoire pour recoller au trio de tête Soudan, RDC, Sénégal. La Mauritanie, bonne dernière, semble être un adversaire de choix pour se relancer. Le sélectionneur des éperviers, Daré Nibombé, se montre confiant et déterminé.
On a passé une bonne semaine de travail. Et l'état d'esprit du groupe est bon. Le mot d'ordre est de se rapprocher des équipes qui sont du haut du tableau, de surfer un peu sur le dernier match des éperviers ici à Lomé contre la Guinée équatoriale. On a la forte conviction que ce qu'on a mis en place depuis ma prise de fonction ici, je pense que derrière, il y a un travail qui se fait dans cette progression. Nous allons continuer. Le constat, il est clair. On jouera pour gagner. On va se créer des occasions. Il faut un peu plus de réussite et de concentration pour pouvoir gagner des matchs. Le mot d'ordre, il est clair. C'est de tout faire pour gagner le match de demain.
Togo, Mauritanie, coup d'envoi à Lomé à 16h en temps universel.
Baptiste Leduc, merci beaucoup. Bonne journée.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En menace et dans menace sur l'information ce matin, cap sur Haïti, avec ce qui ressemble, selon l'UNESCO, à un changement de tactique de la part des gangs afin d'isoler la population. L'inquiétude onusienne, alors que Port-au-Prince est en proie à une nouvelle flambée des violences armées depuis 2 mois, les gangs multiplient les attaques contre les quartiers qu'ils ne contrôlent pas encore et depuis quelques jours, plus particulièrement contre la presse. 3 médias ont été attaqués en moins d'une semaine, Marine de la Moissonnière.
Les locaux de la radio-télévision Caraïbe, situés à la rue Chavanne, ont été incendiés par les bandits.
Le 13 mars dernier, l'attaque dont a été victime radio-télévision Caraïbe pendant la nuit est à la une des médias haïtiens. Les locaux historiques étaient vides depuis plus d'un an. Par mesure de sécurité, les équipes s'étaient installées dans une zone plus calme, mais le bâtiment contenait encore des équipements et surtout, c'est une institution, l'un des plus vieux médias haïtiens et l'un des plus suivis qui a été pris pour cible quand il découvre les images de l'incendie sur Internet. Michel Joseph, co-directeur de la salle des nouvelles de Radio-Télévision Caraïbes, est secoué.
C'était un mélange de colère, de tristesse et d'impuissance. Colère parce que c'est une attaque directe contre notre mission de tenir le public informé dans un contexte où l'accès à l'information est vital. Tristesse parce que ce bâtiment chargé d'histoire représente des décennies de travail acharné et de dévouement pour la vérité. Et enfin, je peux parler d'un sentiment d'impuissance face à la violence croissante qui semble ne pas épargner même ceux qui se battent pour donner une voix aux sans-voix aujourd'hui en Haïti.
La même nuit, les gangs ont aussi incendié la radio Mélodie FM. Trois jours plus tard, c'est Télépluriel qui est saccagé. Même les toilettes sont détruites. Pour Michel Joseph, les gangs savent très bien ce qu'ils font.
Attaquer les médias et attaquer Radio-Télévision Caraïbes notamment, qui est un média très puissant, c'est envoyer un message très fort. Si on réduit les journalistes au silence, la population n'aura pas accès à l'information et les bandits pourront établir leur loi comme bon leur semble. Donc trois médias en une semaine, ça fait montre vraiment de la montée de la puissance des gangs ces dernières semaines en Haïti.
Caraïbes FM, nous c'est roseau, nous plier, mais nous pas jamais casser.
Radio-télévision Caraïbes qui comme un roseau plie mais ne casse pas, dit ce journaliste. Pas question de baisser les bras, insiste Michel Joseph.
Non, on ne peut pas arrêter parce qu'aujourd'hui, la presse reste le dernier rempart de la démocratie. Oui, certaines fois, on est au bord du découragement. On n'a pas le droit d'abandonner.
Ces attaques n'ont fait que des dégâts matériels, mais en décembre dernier, alors qu'ils couvraient la réouverture d'un hôpital, deux journalistes haïtiens ont perdu la vie sous les balles des gangs, sept autres ont été blessés.
Menace sur l'information, Marine de la Moissonnière.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Roy.
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont donc choisi la semaine du 55e anniversaire de la francophonie pour annoncer leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle n'a certes pas eu un fort retentissement, mais cette décision ne constitue-t-elle pas, malgré tout, un coup dur pour l'OIF?
Pour marquer une telle commémoration, ils auraient pu espérer une nouvelle plus réjouissante. Peut-être ces États espéraient-ils un retentissement d'importance en démissionnant ainsi en cœur. Mais dans sa cruauté, l'actualité a fait tomber leur décision à plat en braquant ses projecteurs sur Kagame et Tshisekedi à Doha au Qatar. Il n'empêche plus que jamais l'utilité de l'OIF est source de questionnement dans une Afrique où son rayonnement déclinait déjà passablement. Va-t-elle continuer à feindre l'indifférence ou se repenser pour inspirer à nouveau confiance à des populations qui ont perdu toute illusion sur ce qu'elle est? Vous souvenez-vous de la secrétaire générale déclinant lors du dernier sommet tout ce que n'est pas la francophonie? Peut-être que l'OIF serait plus convaincante si elle se contentait juste d'être ce qu'elle prétend être. À mener une politique qui prête trop souvent à confusion, elle en vient à se voir prêter des défauts qui ne sont théoriquement pas les siens. Comme lorsque cet auditeur dans Appel sur l'actualité sur RFI soutient que le but de la francophonie est de promouvoir la culture française. Ce malentendu s'entraperçoit dans la décision de retrait des trois sortants. À l'évidence, il semble certains de faire du tort à la France en quittant la francophonie, alors que dans les faits, leur départ n'affecte pas plus la France que la Belgique, la Suisse ou le Canada.
N'y aurait-il pas de perdants, Jean-Baptiste? Ce départ n'aurait-il aucun effet pour la France?
Dans cette rupture, les seuls perdants possibles sont probablement les citoyens ou organismes de ces trois pays qui vont devoir désormais se passer des petites subventions saupoudrées sur eux par la francophonie. Certes, au fil des décennies, certaines attitudes ou décisions ont pu conforter une partie de l'opinion dans la certitude que l'OIF servait à l'occasion de variable d'ajustement à la diplomatie française. Ainsi, lorsqu'en dépit du soutien de Paris, Boutros-Ghali, poussé vers la sortie par la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, a échoué à obtenir un second mandat comme secrétaire général des Nations Unies, Jacques Chirac, le chef de l'État français, lui a offert comme lot de consolation le secrétariat général de l'OIF, comme il l'offrira en 2002 au président Abdou Diouf, qui avait entre-temps perdu le pouvoir au Sénégal. Même le choix de l'actuel secrétaire général a été perçu comme un moyen pour la France de sceller des relations enfin apaisées avec le président Kagame, intraitable jusqu'alors en raison du génocide. Mais le fait pour la France de tirer avantage diplomatique de son poids dans l'OIF ne rend pas illégitime l'application au régime putschiste des sanctions prévues par les textes. D'ailleurs, au Commonwealth, pendant anglophone de la francophonie, les États membres réunis par la langue, l'histoire et la culture se revendiquent tous de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, même si leur charte précise que ces états n'ont aucune obligation les uns envers les autres et que l'intitulé du Commonwealth, littéralement « prospérité partagée », insiste sur la notion de partenaires libres et égaux qu'ils sont.
Qu'est-ce qui pose donc problème finalement avec l'OIF?
Sans doute cette capacité à trouver des excuses à certains putschistes tout en tenant d'autres à distance. Ces contorsions pour trouver des évolutions positives en Guinée alors que les méthodes du général Doumbouya sont à peine différentes de celles de ses homologues burkinabés, nigériens et maliens, tant de discrédit enlève à quiconque l'envie de plaider la cause de l'OIF lorsque d'un coup trois de ses membres l'abandonnent. Quant à la langue française, elle n'appartient plus depuis bien longtemps à la seule France. Se proclamer francophone pour nombre d'Africains n'est qu'une commodité. Ils sont aussi anglophones, lusophones et, comme dirait l'Ougandais Yoweri Museveni, bantoufones.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. Que nous évoquent les mots? Comment résonnent-ils en nous avant de nous dire au revoir? Chaque samedi, des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est particulièrement cher à Lucie Bouteloup sur RFI. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot qui évoque la liberté, qui évoque les chemins, qui évoque la marge, la pauvreté, et qui est complètement enraciné en moi et dans le territoire que j'habite, le Québec.
À l'occasion de la semaine de la francophonie, nous allons donc faire cap sur le Québec avec l'auteur Mathieu Blais. Ça fait 20 ans qu'il écrit outre-Atlantique, de la poésie, mais aussi des romans. Le dernier vient de sortir, c'est aussi le premier qui est publié en France et il s'intitule « Brûler debout ». C'est une sorte de fable anarchique dans laquelle on suit la cavale d'une bande de desperados qui sème le chaos partout où ils passent. Et pour cet épisode, Mathieu Blais a choisi de nous parler d'un mot québécois, bien sûr, qui convoque une part de l'imaginaire nord-américain.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Le mot que j'ai choisi est « survenant », qui vient de « survenir », c'est-à-dire « arriver à l'improviste », d'une manière impromptue. On en a fait un nom au Québec. C'est un archaïsme, c'est un mot qui n'existe plus. Mais c'est un mot pourtant qui est porteur et qui désigne plus spécifiquement celui qui survient, celui qui vend sa force de travail en se promenant d'une place à une autre. C'est un travailleur sans domicile fixe. C'est cette grande figure qui, dans les années 20, les années 30 au Québec, se déplace d'un village à un autre. Donc, c'est une figure très, très puissante que la figure du survenant.
C'est une figure, d'ailleurs, qui a inspiré la culture populaire au Québec. Hein. Le survenant, ça a donné le titre d'un roman célèbre dans les années 50. Et puis, le survenant, c'est aussi l'étranger. Et il n'est pas forcément toujours bienvenu.
Oui, effectivement. En fait, je pense que la traduction en anglais a été celle de outsider, donc celui qui vient de l'extérieur et qui vient vers la communauté. Et c'est là toute la force de l'image. En fait, moi, l'acceptation que je fais du terme, c'est que on est capable de tirer à sa suite la figure du hobo, celle de l'Américain, là, celui qui, pendant la Grande Dépression, dans les années 20 et les années 30, va sauter d'un train à un autre avec son pack-sac et qui va se déplacer d'est en ouest, justement, pour courir après le capital et traîne à sa suite une marge. Alors, c'est une figure, effectivement, où on doute de celle-ci, on la méprise jusqu'à un certain point, mais qui en même temps tire à sa suite une culture. Et c'est cette culture-là qui m'intéresse.
Mathieu Blais, le survenant, c'est aussi un homme qui a peut-être du mal à trouver sa place. Est-ce que ça vous parle?
Bien sûr. J'écris dans la marge, c'est de là que je construis l'esthétique, c'est là que je me sens bien. J'irais même jusqu'à dire que la littérature que je convoque, celle que j'écris, c'est une littérature de la survenance. C'est-à-dire que j'essaie de survenir dans la vie de mes lecteurs sans qu'ils s'y attendent. Que ça soit par le style, que ça soit par le propos, que ça soit par le rythme, que ça soit par les images. En fait, les meilleurs textes que j'ai lus, ça a toujours été ça, une surprise. On y attend pas. On se fait avoir par le détour d'une image. C'est ça, l'aventure, la littérature qui se retrouve dans le survenant et qui convoque tout cet imaginaire nord-américain.
Selon le dictionnaire des francophones, le mot survenant est un nom masculin qui désigne celui qui survient, qui arrive inopinément.
C'était un mot, une histoire. Un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup et l'auteur canadien Mathieu Blais. Et bientôt 8h en temps universel sur la radio du monde, avant de nous quitter, un peu de musique avec un titre emblématique de l'Afrique des années 90, Viviane de Prince Aimé, qui retrouve une nouvelle jeunesse avec la voix d'un invité de choix, Yemi Alade.
Viviane, tu m'as fait comme ça.
Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poteaux. Oh Viviane, non. Eh Viviane, non. Oh Viviane, non.
Vivian the glad, everybody the sing, oh, Africa the dance. Vivian, tu m'as fait comme ça. Vivian, c'est toi qui m'as vidé les pochos. Oh Vivian, oh.
Aimé et Yemi Alade sur le célèbre titre Viviane. C'est dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez en ligne sur musique.rfi.fr. Et voilà, RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. Très bonne journée à l'écoute d'RFI.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
En période de vache maigre budgétaire, les États ont besoin de nos impôts pour financer leurs projets et redistribuer les richesses. Faut-il taxer les contribuables ou alors davantage les entreprises? Est-ce la grande revanche de la fiscalité? On en parle avec nos invités à l'occasion du printemps de l'économie à Paris.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.